Nous allons donc parler de féerie, d'une tradition, d'une mythologie qui est très ancienne, que l'on retrouve dans énormément de pays, et qui, de nos jours, avec la fantaisie urbaine, avec beaucoup de beaux livres, est revenue sur le devant de la scène depuis une bonne dizaine d'années. Avec nous, il y a donc André-François Ruault, auteur et éditeur, auteur entre autres d'un dictionnaire féerique assez exceptionnel, et Anne Fakouri, qui met des faits dans ses livres. Alors on va commencer à parler d'encyclopédistes, et des deux sortes d'encyclopédistes, ceux qui font un travail de recherche très 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 sérieux, et ceux qui agrémentent leur travail de fiction, d'inspiration, etc. Donc d'abord, j'ai passé la parole à André pour parler de son travail d'encyclopédiste des faits.
Donc oui, j'ai fait une série de bouquins qui s'appelle « Dico Féerique ». Je suis en train d'écrire le troisième. Le premier, c'était sur les créatures plus ou moins humanoïdes, le deuxième sur les créatures animalières, et là je suis en train de faire le troisième sur les végétaux. Et quelle idée alors? Parce que autant sur les fées humanoïdes, il y a une foultitude d'ouvrages qui existent de toutes sortes, aussi bien ludiques qu'universitaires. Sur les animaux, le bestiaire fantastique, ça va, il y a beaucoup de choses. Mais alors sur les mythes des végétaux, des arbres, etc., il y a excessivement peu de documents. donc là, en fait, c'est un boulot fait encore plus passionnant, parce que c'est vraiment un boulot de recherche, mais vraiment intégralement de recherche. Dans le moindre bouquin de botanique, je suis susceptible de trouver un élément, mais pas plus qu'un. Voilà. Par exemple, je suis en train de lire là, les mémoires d'un écologiste anglais qui est mort en 2006. C'est passionnant, charmant, etc. Et simplement dans la préface, il m'a donné 3-4 pistes passionnantes que j'ai été explorer. Mais vraiment, faut gratter, quoi. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que, à l'époque où j'ai commencé, c'est un bouquin, la première version, je l'ai fait il y a déjà longtemps, et il n'y avait pas en France tellement de bouquins, et il y avait surtout les encyclopédies de Claude Dubois, qui sont ravissantes, de Pierre Dubois, merci. Oui, Pierre Dubois et Roland Sabatier, l'illustrateur, et qui sont absolument superbes. Mais qui ne sont... elles ne me convenaient pas entièrement, quoi. Elles étaient très, très fictionnalisées. Enfin, elles sont toujours très fictionnalisées. Et du coup, il invente certaines des créatures qui... Il ne les explique pas beaucoup, et il invente certaines des créatures. Il fait une très belle fiction, très, très poétique. Et moi, je voulais quelque chose de plus factuel. Hein. Factuel, entre guillemets, évidemment, vu que c'est que du mythe. Mais mon idée, c'était de faire vraiment un vrai dictionnaire, quoi, beaucoup plus factuel.
Et Anne Fakouri, elle va nous parler justement de son amour pour Pierre Dubois.
Alors, ne te méprends pas, Pierre. Mais c'est vrai que moi, j'aime évidemment beaucoup ce que fait André-François, mais c'est par Pierre Dubois, moi, que j'ai rencontré la féerie et par mon histoire familiale. C'était dans Spirou, en 1984, ça s'appelait « Le grand fabulaire du petit peuple ». L'illustrateur n'était pas Robert Sabatier, c'était René Haussmann. C'était absolument merveilleux. C'était une fiche, simplement, avec l'histoire... D'une fée. Alors bien sûr, quand on dit les fées, on entend, on est d'accord, tout le petit peuple, et on est d'accord qu'elles n'ont pas de paillettes aussi. Donc c'était absolument génial, c'était une fiche, parce que certains d'entre vous se souviennent du grand fabulaire du petit peuple, et avec des dessins d'Haussmann, et on avait comme ça accès à l'histoire d'une fée. Moi je me souviens de Louis le Courtois, qui était une fée très 18e, poudré sur une barque, Et
comment ils ont des paillettes.
Comme poudré sur la paillette. Ça brillait pas. C'était le matou, frère. Et en fait, sur une barque, et en fait, il fallait s'inquiéter. Et c'est ça que j'aimais bien. Il fallait s'inquiéter. Quand on se promenait sur le bord de... Si on l'entendait éternuer parce qu'il avait trop prisé, il était dans le coin. Et là, en silence, il attrapait les gens et hop, il les noyait. J'adorais ça. C'était... La peur délicieuse par excellence. Et donc j'ai découvert Pierre Dubois comme ça. Et puis ce que j'ai aimé dans les faits, alors après c'est une histoire familiale qui est vraiment liée aux faits. J'avais une arrière-grand-mère, je l'ai appris très tard, qui écrivait des histoires de fées, de chevaliers. Ah, la fantaisie, 1920. Ah bon, publié dans le petit journal local. Et puis ma mère, quand elle était petite, après la guerre, où c'était un petit peu difficile, où elle allait à l'école à pied, elle avait une fée dans sa poche. Et donc, elle mettait la main dans sa poche pour toucher sa fée, et c'était vraiment une espèce de talisman contre tout. Donc, il y avait ça. Et puis, il y a le fait que ce que j'aime dans les fées de Pierre Dubois et sur les fées, dans les fées en général, du folklore, c'est qu'elles n'ont pas été christianisées, elles ne répondent à aucune loi, elles ne répondent pas au bien ou au mal, elles répondent à la pulsion, au caprice, à l'envie, ce qui est beau, ce qui est élégant, ce qui est joli, ou au contraire, ce qui titille un peu, voilà, peut leur donner une réaction. Elles sont dans la réaction. Et ça, ça j'ai absolument adoré ça, et j'ai adoré l'utiliser dans mon roman jeunesse, mon premier roman, qui est Le Clair Voyage, où effectivement, même si on a l'impression qu'il y a une guerre, si on résume vraiment entre mon héroïne et les fées, il n'y a pas de guerre en soi, dans le sens où il n'y a pas de bien et de mal, il y a juste des fées à un moment qui ont décidé qu'un enfant était joli et qu'elles allaient le prendre pour le remplacer par un changelin. Contre, ils sont des fées géniales, le changelin, terrifiante. Et voilà, et qui décident de taper quelqu'un parce que c'est amusant, ou parce qu'elles ont été vexées pour une raison ou une autre. Voilà, donc moi, c'est vraiment quelque... La fée, chez moi, et dans mon travail, c'est vraiment quelque chose d'affectif et qui tient à l'enfance, et pas seulement à l'enfance, à cette conviction que je veux garder, qu'il y a tout un monde, qu'on sent frémir du coin de l'œil. J'aime beaucoup les fantômes aussi pour ça. Mais si on tourne la tête, c'est trop tard, parce qu'on est vraiment trop lent, de toute façon, pour comprendre. Ça, j'adore ça, c'est vraiment ce qui me plaît.
On retrouve des fées dans l'imaginaire celtique, par exemple, dès le départ. On les retrouve ensuite dans les gestes médiévaux. Mais c'est surtout au XIXe siècle qu'on en a d'autant plus parlé que certains, comme Conan Doyle, les photographiaient dans son jardin. Mais il y a aussi des fées modernes qu'entre autres André a découvert dans ses recherches.
Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Anne, puisqu'elle raconte sa vie, moi aussi je vais faire pareil.
Moi, je peux raconter que ça.
Alors, oui, non, mais tout à fait. Et moi, mes deux influences pour m'être intéressé à ça, et je vais rebondir ensuite sur ce que me demandait Sarah, c'est mon arrière-grand-tante, Lucie Boutillier du Retail, qui était une mondaine parisienne, qui avait un salon littéraire, etc. Et devenue vieille après la Deuxième Guerre mondiale, et veuve. Elle s'est passionnée pour le folklore de Touraine et elle a réuni sur des petites fiches des légendes. Non, je n'ai pas pu les publier pour des raisons de droit, parce que, bon, voilà. La personne qui. L'héritier qui a les fiches ne nous a pas laissé les publier, malheureusement. Et par contre, j'ai un 78 tours où elle chante, parce que la vieille dame, moi je l'ai évidemment pas du tout connue, enfin pas évidemment, mais enfin, je ne l'ai pas, quasiment pas connue, la vieille dame en question, mais elle était terrible, quoi, cette vieille intello, et à la fin de sa vie, elle faisait partie d'un groupe de folklore, de musique folk. Donc j'ai un 78 tours, un petit format, vous savez, petit comme un 45, mais en fait c'est, il tourne à 78, et où elle chante des chansons folkloriques. Puis mon autre, et je désespère pas d'un jour de mettre la main sur les notes, j'aimerais bien. Et puis mon autre influence, j'y pensais hier soir, c'était Terry Windling. Terry Windling, c'est une New-Yorkaise, éditrice. Et dans les années 80, Terry, très jeune, s'est imposé dans certaines maisons d'édition avec deux passions, et c'est enfin, avec une passion pour les fées Et elle a inventé de manière géniale. Je me disais que finalement, elle a été précurseuse de manière incroyable. Parce que je lisais hier soir un article dans le Monde d'hier, sur la mode des contes de fées revisités à Hollywood. Les films sur Blanche-Neige, sur Chasseur de. Sur le Jack et le Haricot Magique, et ainsi de suite. Et je me disais que Thierry Willing a été incroyablement précurseuse parce que dans les années 80, elle a créé deux choses. Elle a créé la fantaisie urbaine, mais vraiment elle a créé ex nihilo, ça n'existait absolument pas comme genre littéraire. Et donc elle a découvert quelques écrivains et elle a vraiment créé ce genre. Et puis également, elle a créé tout un mouvement de revival, si j'ose dire, des contes de fées en faisant écrire à des écrivains. Des nouvelles réinventant, revisitant des contes de fées. Elle a fait plein d'anthologies là-dessus. Et voilà, ça c'est mes deux, voilà, c'est mes deux influences. Puis sinon, ben, pour rebondir enfin sur ce que tu demandais, oui, effectivement, quand j'ai fait des recherches pour les Dico Féeriques, je me suis quand même, bon, c'est passionnant, tout le folklore, les mythologies du monde entier. Mais je me suis interrogé sur, étant moi-même du coup fan de fantaisie urbaine, je me suis demandé si dans les mythes urbains actuels, ça existait, s'il y en avait. Alors effectivement, j'en ai trouvé, mais très 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 peu quand même. J'ai peut-être pas assez cherché, hein, c'est pas évident. C'est d'autant moins évident que je précise que la première édition du Dico Féerique, je l'ai fait au tout début du web. Et on n'imagine peut-être pas à quel point le web et l'internet ça a révolutionné la connaissance. Hein. Je m'en suis rendu compte parce qu'au moment où je finissais de rédiger le Dico Féerique, qui était en un seul volume à l'époque, enfin j'avais accès au web et j'ai fait une orgie de recherche et j'ai trouvé des trucs formidables. Et notamment donc j'ai trouvé la Dame Bleue et c'était simplement un article d'un journal, d'un quotidien local d'Hawaï. Alors, je sais pas, j'ai pas trouvé d'autres documents sur cette dame bleue, donc je sais pas si c'est une affabulation du journaliste, auquel cas il a une belle imagination. Désolé, t'as déjà entendu ça, j'ai déjà raconté
oui,
ça hier.
Bien, moi,
encore. mais en tout cas, j'ai trouvé carrément fascinant. La dame bleue, ça serait une légende inventée par les mômes dans les gangs à Hawaï. La dame bleue, c'est donc une fée qui sort des flots de l'océan de temps en temps, qui est bénéfique. Et si les enfants connaissent le nom secret de cette fée, et ça c'est un élément typiquement légendaire, mythique, typiquement féerique, ça justement que les créatures féeriques aient un nom secret. Et donc si les enfants des gangs connaissent le nom secret de la Dame Bleue, la Blue Lady, et qu'ils le prononcent plusieurs fois, ils sont protégés des balles. C'est incroyable. Et par contre, il y a une mauvaise fée, la Huesera. Alors la Huesera, c'est un mythe qui vient du Mexique, c'est une sorcière mexicaine dans le légendaire mexicain. Mais ils l'ont adaptée. Et donc la Huesera serait une mauvaise fée qui se nourrit de la douleur et du malheur des enfants des gangs. Voilà, donc ça c'est une... Alors là, vraiment un vrai légendaire. Alors est-ce que c'est le journaliste qui a fabulé, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un... Waouh, très très beau légendaire. Et puis évidemment, il y a quelques autres mythes. Évidemment, les dames blanches, vous savez, les autostoppeurs fantomatiques au bord de la route. Il y a différents trucs comme ça en France. Et puis, apparemment, en Amérique du Nord, les mômes aiment se faire peur avec un mythe. Alors, je sais qui a inventé ce mythe-là, mais c'est comme qui a inventé le jeu à la corde et ainsi de suite. Hein. Ça s'appelle la Bloody Mary, Marie ensanglantée. Et donc, il faut scander son nom, apparemment 7 fois, donc une idée bien religieuse, devant un miroir. Et dans ce cas-là, quand ils font des pyjama parties, les mômes ensemble, et dans ce cas-là, la Bloody Mary risque de jaillir hors du miroir et de vous arracher le visage ou de vous blesser. Voilà, donc, les mômes se font peur avec ça.
Beaucoup des faits que nous connaissons, que nous avons lus, que nous avons découverts dans des romans de fantasy urbaine, etc., sont des faits anglo-saxons, sont des faits de tradition des îles britanniques. Mais il y a aussi un gros mouvement en France depuis quelques années de folkloristes qui, eux, vont vraiment chercher les faits régionales. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pas moi, en tant que... Excuse-moi, Anne. mais en tant qu'éditeur, moi, j'appelle ça de mes voeux, en l'occurrence, qu'on utilise des faits non anglo-saxons, si j'ose dire, notre propre culture. Et en plus du tome 3 du Dicophéric sur les végétaux que j'écris moi-même, finalement, j'ai décidé d'un tome 4, qui sera un fourre-tout, qui va s'appeler le Dictionnaire des créatures oubliées, qui sera un fourre-tout de tout ce que j'ai pas pensé à faire... Et un de mes écrivains, Timothée Ray, est en poste à Mayotte depuis la rentrée, en tant que prof. C'est ahurissant, le nombre de légendes à Mayotte. Enfin, Mayotte, Comores, enfin, tout ce groupe d'îles. Et du coup, en interrogeant ses élèves, puisqu'il est prof de lettres, Tim a récolté une quantité de légendes, mais ahurissante. Il m'a rédigé ça, c'est formidable. Et puis, c'est vivant. À Mayotte, c'est-à-dire que les mômes et les adultes, tout le monde, ça fait partie du quotidien. Hein. Et ça, j'aimerais bien que des écrivains s'en parlent. Ça, pareil, sur le premier Dicophéric, j'étais tombé sur un bouquin de folklorisme sur le Pays Basque. C'est extraordinaire. Alors, c'est une toute petite région, hein, je veux dire, c'est un tout petit coin de terre, hein, le Pays Basque. Et il y a un imaginaire qui, non seulement, est... Mais ça fourmille, quoi. C'est incroyablement riche et c'est incroyablement différent des autres imaginaires. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas à ce qu'on peut trouver en Bretagne, par exemple. C'est vraiment un tout autre imaginaire, très très spécifique. Donc, bon, y a Philippe Ward qui a écrit, hein, qui s'est inspiré de ce folklore basque dans certains de ses romans. Mais moi, en tant qu'éditeur, j'appelle de mes voeux que les écrivains s'emparent. Notamment, par exemple, de l'imaginaire bruxellois, n'est-ce pas, Sarah? Voilà,
je vais tout, le faire. Ça. mais déjà, dans des temps qui ne sont pas si lointains, Colette, par exemple, collectionnait les faits et cet imaginaire lié à sa région pour ses écrits.
Georges Sand aussi.
Et Georges Sand aussi.
Oh là là, je suis peut-être la personne qui a moins de notion de région. De la terre, je suis désolée. Mais oui, j'ai pas de frontières pour ça. Je suis partie d'une longue lignée de voyageurs. Hein, donc, j'ai beaucoup de mal avec la région. Par contre, moi, ce qui m'a intéressé dans l'idée, alors j'ai un peu dévié du coup, dans l'idée de région et de transmission. Une partie de ma famille vient de Normandie, où il y a aussi, hein, là pour le coup, un folklore Bretagne, Normandie, féerique. Et on n'a jamais parlé des fées. C'est ça qui est absolument génial. C'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé dans ma famille des fées, sauf en racontant des anecdotes, mais on ne m'a jamais raconté d'histoire vraiment de fées. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une... et là, je pense à l'histoire de ta grand-tante et de cette transmission qui fait... Voilà, rien ne tient au hasard, en fait. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une table ronde avec Pierre Dubois, justement, sur les sorcières. Et Pierre Dubois racontait une histoire sur sa mère, etc. etc. Et puis, il dit à un moment, mais de toute façon, chez moi, on priait Saint-Antoine, qui est le saint lié au fait, et là, l'illumination. Mais c'est le seul saint qu'on ait prié dans la famille, c'est Saint-Antoine. Et tout était déjà en place, en fait. On était quoi dans un esprit féerique? On n'a jamais parlé d'elle, parce que, voilà, on les nomme pas en vain, on est bien d'accord. Mais elles ont toujours été là. Et ce qui est intéressant, justement, moi, ce qui m'intéresse là, en revanche, en tant qu'auteur, puisque j'aime beaucoup les faits, puis la transmission familiale, c'est un petit peu mon cheval de bataille, c'est de voir comment dans les familles, même si on ne rappelle pas ce folklore, on ne raconte plus l'histoire de fées, qu'en plus on relègue souvent aux enfants, qui eux-mêmes, aujourd'hui, sont face à un univers féerique, qui est un univers presque commercial, dans le sens où la fée, c'est quelqu'un qui donne gratuitement, alors qu'on sait bien que dans les légendes ça ne se passe pas comme ça. Quand c'est gratuit, ça n'est pas suite à une demande en soi. Dans les familles, dans certaines familles, je l'ai retrouvé chez d'autres gens, on ne parle pas des fées, elles ne sont pas là, on ne se raconte pas d'histoire de fées, évidemment on n'y croit pas, mais on a gardé ce mélange de folklore et d'imaginaire de chrétien, en fait, lié au fait, vous savez, ce moment où on a décidé que les fées étaient vraiment trop païennes et où on allait petit à petit construire des églises pour éviter qu'on s'intéresse trop à elles. Là, je pense, vous allez peut-être me contredire, je pense à la fête des morts, où autrefois, dans certaines campagnes, on dressait une table pour les fées. Donc j'imagine avec de la brioche et du mouton et du lait, et la crème, pardon, dont les fées aspiraient l'essence. Et en fait, ça fait calmer les fées, les morts en même temps. Donc c'était lié. Puis après, c'est devenu la fête des morts chrétienne et la fête des saints en soi. Et dans la plupart des familles qui ont eu cette tradition de terroir, qui sont restées au même endroit assez longtemps, on retrouve les fées christianisées, des restes, des petits restes. Un saint Antoine qui est prié. Pourquoi saint Antoine? Parce que, enfin, hélas, ma grand-mère est morte, je ne peux plus lui demander, mais oui, mais pourquoi saint Antoine? Alors que, voilà, on retrouve des petites histoires, des petits, même dans les maisons, des petits endroits, des espèces de petites niches. Vous savez, quand vous allez dans les maisons, en Normandie en tout cas, parfois il y a des espèces de petites niches dans les granges. J'arrive pas à croire que ce soit juste pour des oiseaux ou un quelconque rongeur. Voilà, on retrouve plein de choses comme ça. De cette tradition folklorique. Et cet esprit féerique est transmis, en fait, est transmis de génération en génération comme ça. Voilà.
Mais justement, il y a une histoire de relation entre les hommes et les fées, toutes ces manières de calmer les fées, de leur offrir, plutôt qu'elles nous offrent, mais de leur offrir des cadeaux, de la nourriture, etc., etc. Et énormément de fées dont on nous parle aujourd'hui, des fées Disney par exemple, sont des très gentilles fées, des très toutes douces qui vont vous bénir et vous accorder plein de souhaits. Mais dans beaucoup de traditions, au contraire, la fée est farceuse, la fée est cruelle, la fée joue avec l'homme.
Je fais avec, en tant qu'écrivain, je fais des albums, des gros albums illustrés avec Fabrice Collin. Fabrice Collin est un écrivain pour jeunesse fort connu. J'ai la chance de travailler avec lui. Et c'était une commande de la part d'une éditrice, ces bouquins, et c'est des bouquins sur les fées. Mais je soupçonne fortement que l'éditrice pensait que les fées avaient des paillettes, n'est-ce pas? Alors nous, on ne leur met pas de paillettes. Justement, avec Fabrice, on a saisi cette opportunité. On en a fait 5 des bouquins. On est en train de faire le 6e. On a saisi cette opportunité pour faire en sorte d'apprendre aux enfants qu'est-ce que sont en vrai les fées. Et donc, on utilise le vrai folklore. Donc très clairement, je me base sur mes recherches pour le dico féerique et je les adapte pour la jeunesse dans chaque volume. Alors ça ne va pas sans poser problème avec nos éditrices qui, dans cette même salle, hier je parlais un petit peu de la censure. Voilà, on a souvent des prises de bec avec les éditrices parce qu'elles trouvent qu'on est trop macabre, trop négatif, gna gna gna. Ben oui, mais les faits, ça n'a pas les paillettes, justement. Donc, nous, on veut faire, alors, à notre petit niveau, je veux dire, bon, Dieu merci, ces bouquins-là, ils se vendent beaucoup, parce qu'ils sont distribués plus en supermarché qu'en librairie. Bon, ben, sur nos 20 000 lecteurs, ça fait au moins 20 000 mômes qui auront lu qui auront une connaissance, qui auront acquis enfant, une connaissance des véritables faits, du véritable légendaire. C'est un côté pédago, si j'ose dire, qui me plaît vachement, quoi, de pouvoir rappeler justement que les fées ne sont pas toutes comme celles de Walt Disney.
Et quand elles, pour revenir sur ce que tu dis, et quand elles donnent, c'est parce que ce sont des fées marraines. Encore une autre catégorie de fées qui est là, qui appartient évidemment pas au folklore païen, mais quoique on retrouve aussi, ce ne sont pas des fées marraines, la fée bienveillante, évidemment, qui est là sur le berceau de l'enfant. Mais voilà, mais effectivement, pas, pas, les, les fées Disney. Ce qui est particulier avec les fées Disney en plus, c'est que dans la fée Disney, il y a une identification de l'enfant qui veut devenir une fée. En soi, c'est ça le... Alors moi, je suis désolée, je suis en plein dedans, j'ai une fille de 6 ans et demi, donc la fée Clochette, je connais par cœur. voilà, on a la liberté de culture, nous avons la fée Clochette. Et cela dit, c'est pas mauvais en soi, mais la fée Clochette n'a rien de féerique. C'est une petite fille, hein, en soi, qui a simplement la faculté de...